Les podcasts de l'Institut de France. En habit vert, rencontre avec un académicien.
Il arrive qu'une vocation tienne à peu de choses. Une image, un souvenir ou une discussion. Pour Nicolas Grimal, secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, ce fut une carte postale venue d'Égypte. En regardant cette carte, l'enfant qu'il était a entrevu un peuple qui faisait de l'éternité une promesse de vie et non de mort. De cette fascination fiévreuse allait naître une vie entière de recherche, de fouilles et de transmissions sur l'Égypte ancienne. De Libourne à Louxor, du Collège de France à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l'itinéraire de l'archéologue égyptologue relie les rives du Nil à celles du Quai Conti. L'académicien nous a reçus dans son bureau pour retracer quelques points forts de son parcours. Nicolas Grimal est le 11e invité d'En habit vert. Tout au bout du couloir des bustes.
Elle est là, bonjour Marie.
Bonjour monsieur le secrétaire perpétuel, vous allez bien? Nicolas Grimal, bonjour, monsieur le secrétaire perpétuel.
Bonjour.
Merci de nous recevoir dans votre bureau du Quai Conti. À quel endroit précis se trouve-t-il ce bureau dans le palais, à côté des autres bureaux des secrétaires perpétuels ?
Le bureau que j'occupe actuellement est tout à fait au bout du couloir des bustes. Mmh. Il est le plus loin possible oui. de l'entrée. Alors ça a des avantages et des inconvénients.
Lesquels ?
Ah, l'avantage c'est qu'il y a moins de bruit. Parce qu'on est au fond de la deuxième cour. L'inconvénient, c'est surtout pour le visiteur, aussi pour le titulaire du bureau, bien sûr, c'est que vous passez devant les bustes des anciens. Le couloir est long. Ça vous permet de réfléchir sur le fait que vous passez au milieu des géants, vous le nain. Voilà.
Vous vous arrêtez devant un buste en particulier. Il y en a un qui vous marque plus que les
autres. Non, mais il y en a un qui m'amuse beaucoup, c'est le buste de Monsieur Roland. Et comme il a les cheveux longs, tout le monde pense à Madame Roland, bien sûr. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas de femme académicienne.
Non, non. En tout cas, dans ce bureau, c'est ici que vous recevez, que vous travaillez. Est-ce que c'est vous qui l'avez arrangé et décoré comme cela ? Qu'est-ce qu'on peut y voir ?
C'est un bureau en mutation.
Oui.
C'est-à-dire que j'ai pris un bureau qui n'avait pas beaucoup changé depuis pas loin d'un siècle.
Mm-hmm.
Et qui avait la magnifique bibliothèque que vous avez derrière vous. Et j'ai fait faire deux autres bibliothèques qui viennent compléter celle-là. J'ai changé un peu le décor. J'ai mis des gravures de David Roberts. Bah, il faut bien que les gens s'aperçoivent qu'il y a un égyptologue ici. Donc,
j'ai fait quelques indices.
Voilà. Alors, ces gravures sont à moi, donc je les ai fait venir de ma collection. Et puis, nous sommes en train de le réaménager avec l'aide du Mobilier National.
D'accord.
Le bureau, l'appartement de service, tout est en train d'être réaménagé.
Tout sera transformé dans quelques semaines.
Transformé, il faut bien de temps en temps refaire un peu les choses.
Alors Nicolas Grimal, vous avez toujours côtoyé deux mondes assez différents entre l'Égypte et le monde académique, intellectuel parisien, de la Sorbonne depuis la Sorbonne jusqu'au Collège de France et puis à l'Académie des inscriptions et belles lettres. Mais au fond, d'où venez-vous dans quel lieu, dans quel endroit tout a commencé, Nicolas Grimal ?
Je viens de... Mon père, comme vous le savez, était lui-même académicien, était un très grand spécialiste de la civilisation romaine. Et puis sinon, notre famille est originaire du Sud-Ouest.
Vous êtes né à Libourne ?
Je suis né à Libourne parce que mon père était à cette époque-là professeur à l'université de Bordeaux. Et c'est le hasard des affectations. Je suis un enfant de fonctionnaire, tout simplement.
Vous êtes né à côté de Bordeaux, où votre père enseignait là-bas à l'époque. Mmh. C'était un grand latiniste, admiré, respecté dans sa discipline. C'est dans un milieu assez, on peut dire, assez intellectuel dans lequel vous avez grandi. Est-ce que...
Pas du tout.
C'est intéressant,
pas du tout,
ça.
Parce que mon grand-père était employé des postes. Et du côté de ma mère, mon grand-père était instituteur et sa femme employée des postes. Donc, ce n'est pas vraiment un milieu hyper intellectuel,
non.
Mais c'est assez typique de l'ascenseur républicain. C'est-à-dire que c'est une génération qui, au mérite, s'est construite.
Est-ce que, malgré tout, vis-à-vis de votre père, est-ce que vous ressentiez une forme de pression familiale à réussir, à briller, surtout dans sa discipline, dans la discipline de votre père, les lettres classiques ?
Alors, pour comprendre, il faut savoir que je ne suis pas seul, j'ai des frères et sœurs.
Oui.
Tous, sauf une, ont fui la spécialité de mon père. C'est très difficile d'être l'enfant d'un génie. Parce que vous vous dites, bah, pff, au mieux, je peux faire jeu égal, et encore. Et donc, vous passez votre vie à vous mesurer à l'aune de celui qui vous a précédé. Et c'est très difficile de tuer le père. Pas évident. Donc, mes frères et sœurs, sauf une, donc, on a fait autre chose. Alors, évidemment, j'ai un frère qui, comme moi, a fait le tronc commun, c'est-à-dire les études, l'agrégation, enfin bon, tout ce qui, sinon, aurait amené le suicide de mon père. Et puis, ensuite, nous sommes allés dans des directions différentes. Je respecte beaucoup la civilisation romaine, je l'aime beaucoup, mais ce n'est pas ma spécialité.
Alors vous avez choisi l'égyptologie. Pourquoi l'égyptologie et pas la syriologie, le monde grec ? Est-ce que vous êtes senti attiré par ce lieu géographique ?
C'est forcément un choix. Bon, maintenant, à quand remonte ce choix ? Quelles en sont les motivations ? Qu'est-ce qu'on cherche dans une discipline dans laquelle on se lance ? Sans trop savoir, parce qu'au début, quand vous faites quelque chose par passion, vous n'avez pas toutes les conséquences que cela aura. Vous ne savez pas que ça va vous amener à devenir une sorte d'être invivable, qu'on ne pourra plus voir parce qu'il sera dans son bureau en train de travailler. Ça, on ne sait pas. On n'a pas, Dieu merci, l'idée du chemin qui est en train de se tracer. Maintenant, pour ce qui est de la vocation, disons que quand j'étais petit, dans mon sud-ouest quasiment natal, j'avais un défaut, un grand défaut, c'est que j'étais asthmatique. Mmh. Et donc, le matin, je ne fallait pas que je sorte, je vivais près d'une grande rivière. Je ne pouvais pas sortir le matin, parce que si je sortais tôt le matin, quand il y avait du brouillard, j'étais malade le jour même, et puis je partais pour plusieurs jours de crise d'asthme, etc. Ce qui fait que j'étais un boulet, vraiment un boulet. Comme j'étais le dernier des garçons de la famille, c'était le petit boulet, celui qu'on aimait bien voir rangé dans un coin, quoi. Et mes parents, dans le début des années 50, sont allés faire un voyage en Égypte. Mm-hmm. Donc ils sont partis, ils ont laissé derrière eux leur nichée et le petit boulet. Pendant qu'eux visitaient la vallée du Nil, on était, nous, dans notre sud-ouest. Et probablement, mus par un certain remords, ils nous ont envoyé des cartes postales. Alors, les cartes postales sont arrivées, ça mettait du temps à l'époque, surtout vu le trou dans lequel on habitait. Et j'ai reçu une carte postale qui représentait un vase canope. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un vase canope ?
Absolument pas.
Un vase canope, c'est un des quatre vases dans lesquels on mettait les viscères du mort. Oui, dit comme ça, c'est pas très joyeux. C'est pas un cadeau à faire à un petit garçon de 6 ans. Mais ils sont beaux, ils sont décorés à l'effigie des quatre divinités qui protègent les viscères du mort. Et celui qui m'avait envoyé, la photo qu'il m'avait envoyée, était un des vases canopes du trésor de Toutankhamon. Quand je l'ai reçu, j'enchaînais les crises d'asthme. Et j'étais dans mon petit lit, j'avais un petit lit en bois fermé, vous savez. Et on avait punaisé au mur cette carte postale. Et dans mon délire, entre deux fièvres, deux quintes de toux, de difficultés respiratoires, je la regardais, je la fixais. Alors, est-ce que ça a été une sorte d'hallucination ? Mais elle m'est devenue très familière. Et quand j'ai été un petit peu plus grand, un peu plus capable de prendre des livres et de les comprendre, je suis allé voir. Et là, j'ai découvert une civilisation. J'ai regardé des livres essentiellement d'images, enfin avec un peu de texte, mais des livres d'images. Donc j'ai découvert une civilisation à travers les monuments funéraires ou les monuments religieux. Et dans les tombes égyptiennes, ce qui est représenté, c'est pas du tout la mort, c'est pas comme dans les mondes mésoaméricains précolombiens, c'est la vie. C'est-à-dire que les anciens Égyptiens se faisaient représenter vivants éternellement dans l'au-delà et jouissant des plaisirs de la vie. Alors, je me suis dit, un peuple, du fond de ma petite cervelle, je me suis dit, un peuple qui aime autant la vie, pour imaginer l'éternité comme étant la reproduction de la vie, ne peut pas être méchant. Ça ne peut pas être un mauvais peuple. Et effectivement, plus j'ai avancé après dans la connaissance des Égyptiens, plus j'ai trouvé en fait une population attaché à la vie, attaché à toutes les formes de la vie, animale, végétale, humaine, etc. La civilisation pharaonique a toujours gardé pour moi cette saveur chaude que j'avais trouvé dans mon enfance. Et puis, il y a une extraordinaire longueur. J'avais 6000 ans de civilisation. C'est la seule civilisation au monde qui ait une telle durée et qui n'a pas changé. Des gens qui, nous qui vivons des périodes très troublées, où les gens sont toujours là en train de vouloir renverser la table, les Égyptiens avaient une conception du monde et de la survie telle qu'ils ne pouvaient pas la briser. S'ils la brisaient, ils cassaient tout le système. Si vous ne respectiez plus le cycle divin, si vous ne respectiez plus les morts, vous rompiez le lien qui vous permettait à vous vivant, un jour devenu mort, de rester encore vivant. Donc ça avait beaucoup de quoi attirer un petit enfant.
C'est votre père qui s'est beaucoup intéressé à la figure des mythes. Et est-ce que vous avez grandi avec des figures en tête, des mythes, alors je ne sais pas si on peut dire que Champollion est un mythe, mais des figures comme ça qui auraient pu vous subjuguer
Des modèles alors. Des modèles d'hommes, oui, ou de femmes, que j'aurais pu suivre. Mais, vous savez, j'en avais déjà un sous les yeux tous les matins, tous les midis, tous les soirs, celui de mon père. Et quand on est un petit garçon, puis un adolescent, c'est très lourd. Donc on a tendance à refuser le modèle. Et on a tendance à vouloir tout sauf. Alors généralement, la révolte adolescente, c'est vous cherchez le contraire de ce que vous avez à la maison. Ça fait le désespoir des parents. Mais bon, je n'avais pas de modèle. Je veux dire que je n'ai pas fait de l'égyptologie pour ressembler à Champollion. La figure de Champollion m'a beaucoup séduit plus tard. Le personnage lui-même, plus je l'ai connu, et plus je l'ai aimé. Mais qu'est-ce que j'ai aimé en lui ? Champollion, c'était une passion, bien sûr, cette passion qui d'ailleurs le consumait, mais c'était aussi un bourreau de travail. Ce que les gens savent peu, c'est que Champollion ne s'est pas contenté des hiéroglyphes. Il avait une grande connaissance de l'orientalisme, disons, dont il a été un des inventeurs, en quelque sorte. Mais en même temps, il écrivait des pièces de théâtre, il écrivait des pamphlets, il était partout. Et il était très engagé politiquement, c'était un bonapartiste, ça lui a valu les pires ennuis. Enfin, il avait tout ce côté que les Allemands ont figé dans le Sturm und Drang, c'est-à-dire vous êtes Goethe, Werther, etc. C'est-à-dire la révolte qu'on a quand on est un homme jeune ou un adolescent. Mais lui, c'était une révolte qui était constructive dans la mesure où il s'enfonçait dans sa passion et il la développait. Vous savez, quand il est parti en Égypte, dans l'expédition franco-toscane, c'était un rêve, j'allais dire c'était un vieux rêve, il n'avait pas 30 ans. Mais c'était un vieux rêve. Et il luttait contre la maladie, en fait. Il n'était pas bien, il était malade. Et il écrivait à son frère, il disait « Je suis enfin bien, je sens que je guéris ». En fait, c'est ça qui est frappant, c'est que la passion que vous pouvez avoir, qui se traduit généralement par un travail qui vous épuise, elle vous sublime. Mmh. Et vous, à ce moment-là, et c'est peut-être la leçon que moi j'ai retenu de ces personnages, ils sont arrivés à un point où leur vie se confond complètement avec leur passion. C'est-à-dire que vous avez des gens qui ne mesurent pas et qui vont jusqu'au bout, jusqu'à trouver ce qu'ils cherchent, même s'ils ne savent pas tout à fait ce qu'ils cherchent. Et c'est ça, c'est pas des modèles, c'est plutôt un modèle de vie. Ceci dit, oui, c'est facile à vivre pour soi, mais l'entourage...
C'est plus compliqué parfois.
Ouais.
En habit vert, rencontre avec un académicien.
Vous avez vécu de nombreuses années au Caire, fait de nombreux séjours à Louxor lorsque vous dirigez des fouilles. Vous avez aimé le terrain autant que l'aventure intellectuelle ?
Mais le terrain est une aventure intellectuelle. L'aventure, c'est pas forcément prendre des douches froides en plein désert. Ça existe aussi, c'est pas la partie la plus sympa. Mais l'aventure, elle est toujours intellectuelle. Il faut savoir lire un paysage. L'archéologie, c'est la main intelligente. Je connais des archéologues qui n'ont jamais rien trouvé, parce qu'ils n'étaient pas du tout faits pour ça. Puis vous en avez d'autres, vous les mettez, et paf, tout de suite, ils repèrent, ils voient. Je me souviens d'avoir visité l'oasis de Harga, où on avait un chantier, là, quand j'étais directeur, avec un géographe, parce que mes prédécesseurs avaient fouillé une sorte de forteresse, parce que c'était entouré de grands murs, en plein désert, en pensant que c'était une forteresse militaire pour lutter contre les méchants qui venaient du sud, etc. Et, tout. Bon. Et puis, j'ai demandé aux collègues qui fouillaient ça, je lui ai dit, mais tu as trouvé des armes, des signes ?
Non, pas vraiment.
Rien. Il me dit, mais même pas une petite inscription ? Rien. Et puis, mais c'est une forteresse. Je dis oui, c'est une forteresse parce qu'il y a des murs. Ouais, d'accord, mais enfin, il y avait un temple à l'intérieur et puis il y avait une ville. Et puis, c'était un endroit, vous savez, c'était sur la piste des 40 jours. On les voit venir de loin, les ennemis. Hein. Il faut 2 mois pour arriver. Donc, je me suis dit, ça ne peut pas être comme ça. Et donc, j'ai commencé à regarder avec ce géographe qui s'appelait Bernard Bousquet, qui malheureusement n'est plus de ce monde. Et on s'est promené. Mais lui, en tant que géographe, il enregistrait sans information, là où moi j'en voyais une, hein, c'était absolument extraordinaire. Alors à un moment, il me dit, bon, voilà, je crois que j'ai compris.
Alors qu'est-ce qu'il vous dit ?
Ah, c'est extraordinaire, moi j'étais, vous auriez mis un petit enfant devant une pâtisserie, c'était la même chose. Alors, il me dit, voilà, tu vois, là, il y a des chaînes de dunes, genre, effectivement, il y avait des grandes barcanes qui arrivaient, et puis il me dit, là, il y a des endroits, tu vois, il y a des vestiges de végétation, très bien. Il a mis au jour, enfin, ensuite on l'a fouillé pendant des années, un système d'irrigation qui consistait à aller capter l'eau dans une source artésienne qui était à des kilomètres de l'endroit où la vie s'était installée, à faire des conduits souterrains, ce qu'on appelle des kanawats, c'est une technique qui vient d'Iran, des kanats qui descendaient l'eau par gravité depuis l'endroit où on l'extrayait et qui la descendaient avec des retenues, avec des puits, etc., jusque à quelques kilomètres de là, à l'endroit où on faisait un parcellaire, où on cultivait des jardins. Oui. Alors, c'était extraordinaire. Alors, du coup, tout s'est expliqué. C'était une exploitation agricole. Les murs, c'était pour protéger du vent et du sable. Enfin, tout devenait absolument lumineux. Donc, j'étais fou de joie. Mais en même temps, j'étais honteux. Parce que dans l'oasis d'à côté, à Bahreïa, le système existe encore. Et vous voyez les kanawats, vous voyez les jardins et tout. Bon, c'était en zone militaire, mais j'y passais une fois par an pour revenir au Caire. Ça n'avait pas fait le rapprochement. Donc, c'est pas uniquement une question de connaissance, c'est une question d'état d'esprit, c'est...
D'observation.
Et c'est surtout d'humilité devant les faits. Faut pas arriver... Vous savez, les gens qui arrivent en disant « j'ai une théorie, je vais la démontrer, c'est comme ça, les choses sont carrées hein, », ça marche jamais. Jamais. Mmh. Et ça peut amener l'humanité au pire débordement. Enfin, ça, c'est autre chose.
Sur l'Égypte, vous dites aujourd'hui, malgré la fascination, toutes les expositions qui sont consacrées à l'Égypte, en fait, on connaît assez mal cette civilisation.
Ben, si vous voulez, oui, oui et non. Bon, ce qu'on connaît de l'Égypte, imaginez que l'on connaisse notre civilisation par les cimetières et les églises. Ça donnera forcément une image, mais pas la réalité.
C'est un petit peu réducteur.
Donc, j'ai vu naître, moi, l'archéologie urbaine. Ça permet d'avoir un éclairage différent, bien sûr. Maintenant, pour ce qui est de la masse de ce que l'on connaît, si on a 40%, c'est bien le bout du monde. Mais 40% sur 6000 ans, qu'est-ce que c'est ? Et puis l'Égypte, c'est pas que les pyramides. On pourrait parler aussi de l'Antiquité tardive, les ressources papyrologiques qu'on n'a pas fini d'exploiter. L'archéologue a une pensée forcément relative, parce qu'il y a ce qu'il a trouvé. Et tout le reste, on sait pas où c'est. Imaginez l'accumulation sur 6000 ans, ça représente quand même pas mal de monde. Et donc, ces gens-là, on ne va pas les retrouver tous, bien sûr, mais on ne va pas non plus retrouver tout ce qu'ils font. La littérature, on connaît les œuvres, mais on ne connaît pas tout. On n'a pas la chance d'avoir, comme pour les auteurs grecs, les Arabes, qui ont transmis cette culture. Nous, il y a une césure, on n'a rien. Bon. Donc, c'est vrai que on n'est pas à la merci d'une découverte de premier plan. D'ailleurs, il y en a une, dont je ne peux pas vous parler parce qu'il y a un embargo des autorités égyptiennes. Une de nos équipes vient de faire une très belle découverte. Mais il n'y a que les Égyptiens qui ont le droit d'en parler d'abord. Donc, vous resterez sur votre faim.
La nouvelle va sortir quand même bientôt dans les semaines à venir.
Quand nos partenaires le voudront bien, hein, c'est pas... Bon, voilà. Oui, c'est comme ça, c'est la vie. Donc ça, si vous voulez... On ne peut pas non plus tirer des lois d'un pourcentage aussi faible de découvertes. Ça, c'est pour la connaissance. Pour ce qui est du merchandising, si je puis dire, il faut bien voir que l'Égypte d'aujourd'hui est un pays très peuplé, a plus de 100 millions d'habitants. C'est un pays très difficile à gérer, qui est tenu en plus par une autorité militaire qui, comme toute autorité militaire, confisque une partie de l'économie pour elle. Depuis la construction du haut barrage d'Assouan. Donc on est, le projet, c'est avant la Seconde Guerre mondiale, la réalisation, c'est les années 50-60. Il y a eu le survêt de la Nubie pour essayer de sauver les temples qui allaient être immergés dans le lac Nassa. Ça a été un grand mouvement international, c'est l'époque où l'UNESCO avait les moyens de lancer des opérations comme celle-là. Mais cette campagne de l'UNESCO a été très bien orchestrée, pas seulement par les égyptologues, mais par les politiques. Et c'est un peu devenu l'affaire de l'humanité. C'est là où on a développé la notion de patrimoine mondial de l'humanité. Vous voyez, une sorte d'appropriation par le monde des trésors archéologiques considérés comme uniques et nécessaires à la compréhension de son histoire et de son développement. Ça a été l'occasion, donc, de mouvements auprès du public, d'une sensibilisation du public, qui fait que lorsque dans les années 60, à la fin des années 60, il y a eu l'exposition Toutankhamon, qui est venue à Paris, c'était la première fois qu'on faisait une exposition à très grand spectacle, comme ça, qui a drainé des millions de visiteurs. Ça a été...
Ouais, c'était impressionnant.
Et elle ne vient d'être battue que par l'exposition Ramsès II qui s'est faite à la Villette. Et c'est une exposition de copies, en plus.
Ah, bon. Oui.
Donc, ça a été une découverte, parce que des centaines de milliers de visiteurs, c'est beaucoup d'argent. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait un véritable marché. Donc, il y a eu, l'Égypte est devenue un objet économique, un objet de désir, un objet vendable. Et l'Égypte a commencé à vraiment avoir du public qui est venu, alors les croisières, etc., et tout, et qui a rapporté de l'argent. Les produits obtenus en faisant visiter les sites, le tourisme, les métiers secondaires, etc., et tout, ça représente un véritable pactole. Et l'Égypte n'a pas de ressources naturelles propres, elle a du gaz, et elle n'a pas de ressources qu'elle puisse exporter. Donc le tourisme reste...
Oui, c'est une bonne chose aussi.
Ça reste un ressort économique énorme.
Mais est-ce que ça a un impact pour la recherche, justement, sur l'archéologie? Est-ce que les gouvernements ne se disent pas « Bon, bah, on pourrait mettre plus de fonds dans la recherche allouée ?»
Non, j'ai passé ma vie à essayer de financer des opérations archéologiques, entre autres. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez là? Les États ne mettent pas beaucoup d'argent. La France, ça me fait beaucoup de peine de dire ça, mais la France n'est pas un bon mécène culturel. C'est pas une critique, mais les moyens ne s'inventent pas. Alors, on arrive à dégager de l'argent, par exemple. Notre académie, ici, participe à l'un des grands prix mondiaux d'El Louka, qui est le prix d'archéologie. Ce prix d'archéologie, autrefois, était 200 000 euros, à la suite d'un tour de passe-passe il y a une quinzaine d'années, il s'est retrouvé à 150 000.
Mais ça reste un des prix les mieux dotés.
Ça restait, jusqu'à cette année, le prix le mieux doté. Ça ne l'est plus. Puisque notre académie crée cette année le prix RA-M-7, qui est un prix doté de 200 000 euros chaque année, grâce à la générosité de notre donatrice. Tout cumulé, l'Académie des inscriptions et belles-lettres peut proposer l'attribution de presque un demi-million d'euros chaque année pour l'archéologie. Nous avons d'autres prix pour d'autres
Bien
choses.
Sûr, ouais.
Alors, nous commençons à arriver à des niveaux qui sont ceux que l'on a dans les sciences dures, qu'on a dans la médecine, dans la biologie. Mais ça reste quelque chose de privé. C'est-à-dire que si les mécènes ne répondaient pas à nos appels, il ne se passait rien. J'ai travaillé pendant plusieurs dizaines d'années avec la commission des fouilles des affaires étrangères, que j'ai aussi dirigée en montant. Elle distribue 2 millions par an pour 160 missions, c'est rien. C'est-à-dire que chaque mission est financée au maximum au tiers, quand on donne le maximum. Or, une fouille actuellement, c'est entre 50 000 et 100 000 euros pour une campagne. Donc il faut trouver cet argent. Alors bien sûr, il y a le CNRS, il y a les universités, etc., mais c'est un peu triste parce que vous ne pouvez pas vous engager dans le travail avec des pays hôtes et dans des cultures différentes sans y mettre une part de vous-même. On ne sommes pas des machines. Et donc, à un moment ou à un autre, vous vous dites, mais pourquoi ceux qui ont ces richesses culturelles sont si maltraités et pourquoi notre pays, qui se dit le pays de la liberté, de l'ouverture, pourquoi ne fait-il pas ? Alors, on comprend bien pourquoi, bien sûr. Je ne suis pas en train de critiquer, mais c'est un véritable crève-cœur. Et tout à l'heure, quand vous me disiez quelle était l'origine de votre passion, ce n'était pas d'en arriver là. Si on m'avait dit qu'un jour je me retrouverais à avoir à décider d'attribution de moyens et à être devant des dilemmes pareils, je me serais lancé dans la construction automobile.
J'avais quelques questions de fin, des questions sur vos responsabilités. Alors, au sein de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, évidemment, mais d'abord un mot sur le Collège de France. On ne peut pas ne pas parler du Collège de France. Est-ce que vous y êtes resté 20 ans ? C'est votre...
Un peu plus, 21 ans. De 2000 à 2021.
Qu'est-ce que vous retenez de ces années-là, au Collège de France ?
Collège de France, c'est... D'abord, le Collège de France d'aujourd'hui n'est pas celui que j'ai connu. À l'origine, le Collège de France a été créé sous François Ier, par François Ier, pour qu'il soit représenté des disciplines qui n'étaient pas enseignées dans l'université. Bon, il faut dire que l'université était une université religieuse, donc c'était très limité, très limité. Le champ, il y avait des champs qui n'étaient pas admissibles, qui n'étaient pas d'ailleurs défrichés à l'époque. Mais le Collège de France, tel que moi je l'ai connu, il y avait encore de très très grandes figures. Il y en a encore, bien sûr, mais les prix Nobel continuent à tomber.
Oui.
C'est une très belle pépinière de gens, non pas en fin de carrière, mais de gens qui ont apporté quelque chose à leur discipline. Alors vous savez, quand on vient vous prendre par le bras en vous disant « il faudrait peut-être que qu'on te présente au Collège de France », d'abord vous vous dites que, ma foi, c'est un honneur bien grand et que... La première fois que j'ai franchi l'entrée du collège après avoir été élu, je me suis dit qu'il devait y avoir une erreur quelque part. Parce que c'était pas... Non, je me sentais petit par rapport aux prédécesseurs. C'est toujours vrai d'ailleurs, j'ai pas changé de ce point de vue-là. C'est un endroit de liberté. C'est-à-dire que pour la première fois, je sortais de diriger le Caire et divers chantiers pendant une quinzaine d'années, où là j'avais les contraintes diplomatiques. Là j'étais libre. Complètement libre. C'est-à-dire que je faisais absolument ce que je voulais. Avec des moyens, bon, qui n'étaient pas immenses, parce que c'est bien connu, les littéraires, on ne leur donne pas d'argent, mais qui m'ont permis de faire ça. On a publié pas mal de livres. Bon, c'était pas mal. Puis en même temps, il y avait le plaisir d'être dans les pas de Champollion. C'est pas désagréable.
C'est pas mal.
C'est pas désagréable. Donc ça a été une période, de ce point de vue-là, très heureuse. Ça a été aussi une période d'échange avec certains de mes collègues et des amitiés que j'ai nouées, en particulier avec des gens comme Serge Haroche, que je n'aurais pas pu avoir ailleurs, parce que là-bas, on se rencontrait. Et c'était pour moi l'occasion extraordinaire de rencontrer de grands esprits, et des esprits qui étaient loin de ce que je faisais. Mais en fait, on se rend compte, plus on s'est connu, plus on se parle, plus on se voit, plus on se rend compte qu'en fait, oui, on a des disciplines différentes, mais on a des goûts, on a des passions qui se retrouvent. Nous sommes toujours amis, et nous continuons à nous voir avec un certain nombre d'entre eux. Malheureusement, la grande faucheuse fait son œuvre.
Certains
sont décédés. Bon, on perd des amis. Mais ça a été une période enrichissante sur le plan humain et une période de liberté, de travail, liberté, ce qui m'a permis de faire autre chose et de m'occuper des affaires étrangères en particulier.
Est-ce que c'est la même atmosphère, le même esprit que vous avez retrouvé ici, à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, et puis plus largement à l'Institut, aux côtés des autres académies ?
C'est un peu différent. L'Académie des inscriptions et belles-lettres, le champ est à la fois très large et en même temps plus limité, puisque nous sommes entre gens de sciences humaines, avec des champs qui vont de la paléontologie jusqu'au XVIIIe siècle. Toute culture confondue, on a de tout. Bon, donc c'est là aussi, ça c'est, je dirais, le côté le plus impressionnant. C'est-à-dire que j'ai des confrères et des consoeurs qui sont des gens absolument remarquables. L'avantage de cette académie-là, c'est que chacun de nous travaille. C'est-à-dire que chacun de nous a un champ d'études et dans son atelier en train d'avancer. C'est fou le nombre de publications que chacun de nos académiciens fait chaque année. Et comme généralement, il y a beaucoup d'universitaires, ils ont derrière eux leurs élèves, etc. Donc, ils ont toute une tradition. Donc, chez nous, les séances et les entretiens que nous avons dans les commissions et autres ensemble sont toujours très enrichissants. En plus, c'est un lieu d'excellence. Donc, il est évident que arriver dans notre académie, je ne dis pas ça pour moi, je dis ça pour les autres, c'est avoir un parcours d'excellence, ce qui est, bon, ce qui change pas beaucoup du collège, si vous voulez, mais c'est plus académique, c'est plus tourné vers une recherche. Beaucoup de nos académiciens et académiciennes sont membres d'autres académies dans le monde entier. Donc vous avez cette espèce d'international des chercheurs qui fait que les grands maîtres, ben, vous allez généralement les trouver ici. Ils sont là. Bon. Donc ça, c'est quelque chose. Et en plus, je dois dire que nous formons une communauté fort agréable. Évidemment, on voit plus les membres français parce que les 55 sont là plus souvent. Enfin, oui. Il y en a une quarantaine qui viennent chaque semaine. Mais on a le même nombre d'étrangers, on a les correspondants. On est une communauté de 200 personnes à peu près. Je crois que je connais maintenant bien tout le monde. Et il y a une certaine chaleur. Je vais vous donner un exemple. Quand nous accueillons un nouveau membre, bon, il y a l'accueil en séance, mais quand nous lui remettons son épée, nous sommes, nous, l'académie qui ne fait pas ça sous la coupole.
C'est vrai, la seule des cinq.
Nous remettons l'épée. En ce moment, c'est dans les salons du rectorat de Paris, parce que le rectorat a la gentillesse de nous faciliter l'accès de ces salons. Et nous le faisons dans une cérémonie qui regroupe à la fois les membres de l'académie, qui sont là, bien sûr, les universitaires et amis, chercheurs qui connaissent l'impétrant, sa famille. Et ses amis, globalement. Nous avons eu, la semaine dernière, une très belle remise d'épée, celle de Jean-Michel Mouton, qui est spécialiste du monde ayoubide. Et c'était extrêmement chaleureux. Et ça, c'est quelque chose qui est unique. C'est-à-dire que, d'entrée de jeu, la personne qui vient se trouve dans une communauté qui l'accueille vraiment. Il n'y a pas de tension. Il y en a peut-être parfois, parce qu'il y a des gens qui ne s'aiment pas, il y en a partout.
Comme partout,
mais,
oui.
Mais il n'y a pas de clivage, il n'y a pas d'opposition. Et c'est quelque chose qui, moi, me plaît énormément dans cette communauté. On a vraiment ce sentiment d'appartenance commune, d'avoir des buts communs. Et je trouve une bienveillance. Vous savez, le boulot du secrétaire perpétuel, c'est d'imposer des tâches à beaucoup de gens. Donc, parce qu'on a un nombre de commissions, etc. Et tout. Donc quand je demande à un confrère ou à une consoeur, tu veux entrer, tu veux être là. Toujours. Jamais de problème. Tous mes confrères et consoeurs sont des gens qui font et qui aiment faire le travail.
Et qui sont volontaires.
Qui font. Et ça, ce sont des gens, on n'est pas tout jeunes. Ben non, il y a toujours cette même flamme, cette même passion. Ça, c'est quelque chose que je trouve merveilleux.
Et vous, en tant que secrétaire perpétuel de cette académie depuis 2022, quelles sont les grandes orientations, impulsions que vous donnez à cette académie?
J'essaie de faire que ce soit toujours des décisions communes.
D'accord.
Ça doit être mon passé de rugbyman, je pense. Les points importants sont toujours soumis à une délibération et à un vote. Alors, d'abord, j'essaie de faire en sorte que les disparitions d'académiciens qui laissent des places vivres dans des champs importants soient comblées. Alors, ce n'est pas toujours évident, parce que l'idée n'est pas forcément de combler un manque, mais d'avoir la personnalité d'exception qui va la combler de façon brillante. En revanche, j'ai développé, oui, des champs qui ne l'étaient pas nulle part dans l'Institut, les études méso- et sud-américaines précolombiennes, oui. Nous avons recruté Dominique Michelet et nous avons recruté maintenant deux correspondants, un français, un étranger, qui nous aident à défricher ces champs. Donc, essayer de faire la promotion de disciplines, de préférence des disciplines fondamentales. C'est ce que j'essaie de faire. Maintenant, j'ai la chance de travailler avec une équipe extraordinaire ici. C'est vraiment, c'est un vrai plaisir. Mon prédécesseur avait très bien géré l'académie, a laissé une situation très saine. Et nous essayons encore d'améliorer la copie. Mon idée serait de laisser en partant une académie totalement libre et autonome pour au moins une quinzaine d'années. Donc on fait beaucoup de choses matérielles qui en rebuteraient certains, mais qui sont pas forcément inutiles. Je crois beaucoup, et je me sens toujours très honoré d'être dans cette maison dans laquelle je suis depuis maintenant plus d'un quart de siècle. Je suis très honoré et je trouve que cette tradition est belle et que nous devons la maintenir. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Et là, je suis entouré d'une façon merveilleuse pour ça.
J'ai J'avais une dernière question sur l'épée d'académicien, parce que lorsqu'on devient académicien, on reçoit une épée qu'on peut personnaliser ou pas. À quoi ressemble votre épée d'académicien ?
À une épée d'académicien. Je vous explique. L'Institut de France a été fait sur le modèle de l'Institut égyptien de Bonaparte.
Et j'ignorais.
Oui. Et oui. Et le règlement de l'Institut de France est décalqué du règlement de l'Institut égyptien qu'il avait fait au moment de l'expédition d'Égypte, qui siégeait à Alexandrie puis au Caire. Je suis membre de l'Institut égyptien, car les Égyptiens élisent dans cet institut généralement les directeurs des grandes institutions qui sont en Égypte, etc. Donc, quand Bonaparte a créé l'Institut égyptien, il lui a donné un uniforme qui est la base de l'uniforme de l'Institut de France,
ouais.
Qui est la base de l'uniforme des grands corps d'État, les préfets, etc. Les diplomates ont un habit brodé comme nous.
Comme ici, voilà. Comme les académiciens.
Voilà. Et donc, l'égyptologue que je suis, membre de l'Institut d'Égypte, a une petite nostalgie et se dit, après tout, 1663, oui, mais juste après, j'arrive. Et donc, quand il s'est agi de me choisir une épée, j'ai commencé par vouloir avoir celle de mon père.
Mmh.
Et puis, sa veuve ne l'a point voulu. Donc, très bien. On a cherché une épée pour moi. J'ai demandé à avoir une épée réglementaire de l'Institut d'Égypte. C'est une épée d'ordonnance qui est en bronze doré, avec pommeau coquille traditionnel, etc. Et une petite Isis Faria qui rappelle l'Égypte. Et puis, c'est difficile parce que le temps passe et il n'y en a pas énormément. Et donc, on a cherché. Enfin, mes amis ont cherché. Et puis, on est revenu me voir, me disant, voilà, on a trouvé quelque chose qui devrait convenir. Et j'ai vu arriver une épée toute simple. Hein, c'est une épée toute bête, mais avec une jolie pommeau, une jolie coquille réglementaire, mais en argent.
D'accord.
Alors que l'épée, normalement, est en bronze. Oui. Est en bronze doré. Mm-hmm. Bien. J'étais très reconnaissant. Et donc, j'ai fait personnaliser le fourreau, puisque je ne voulais pas toucher à l'épée qui est restée telle qu'elle était. Et on ne se refait pas. J'ai commencé à faire des recherches. Disant, mais elle vient d'où, cette épée ? Pas facile, quand vous avez un objet nu comme ça qui vous arrive.
Il n'y a pas d'inscription, il n'y a pas de...
Mais il y a un poinçon. Mm. Poinçon de la guilde des orfèvres de Paris. Puisque ben, c'est de l'argent poinçonné. Mm. Donc j'ai retrouvé le poinçon et retrouvé dans les archives la date du poinçon.
Alors ?
L'histoire, si non è vero, è ben trovato. L'histoire est très belle. Il se trouve que Jomard, qui a été l'éditeur de la description de l'Égypte, grand bonapartiste s'il en fut, et qui était perpétuel de l'Académie, a été viré par la Restauration en tant que bonapartiste. Il y a eu une grande purge qui a été faite dans les rangs des académies. Les académiciens sont indociles par définition. Ils ont fait de nouvelles élections et ils ont réélu les mêmes, bien sûr. Et du coup, les mêmes se sont fait faire une seconde épée pour témoigner. Et elle ne pouvait plus être en bronze doré, elle a été en argent. Et donc, j'ai probablement l'épée de Jomard. Alors, si c'est ça, c'est magnifique.
Mais oui.
Et cette épée, pourquoi j'ai une bonne chance de l'avoir ? Bon, il y a le poinçon, bien sûr. Il y a aussi le fait qu'à la mort de Jomard, qui n'avait pas d'héritier, tout a été vendu à l'encan. Donc, tout a été dispersé. Et on a perdu la trace.
Donc elle pourrait, oui, potentiellement.
Je me suis fait un plaisir, je me suis inventé une belle histoire.
on va rester sur cette version.
Oui, bien sûr. Bien sûr, bien
vous,
sûr.
Vous la conservez dans votre bureau, cette épée, ou
elle
se trouve ailleurs ?
Elle doit être là.
Elle est quelque part.
Oui, elle est là. Oui. Elle est cachée.
Bon, on ne va pas la déranger.
Non, c'est une simple épée.
Merci beaucoup, Nicolas
Grimal,
monsieur le secrétaire perpétuel, pour ce temps que vous nous avez accordé. Et on a l'habitude de finir avec une musique.
Ce que vous voulez dans le sextuor de Schubert.
Très bien. Un passage en particulier ?
S'il est joué par David Grimal, peu importe le passage.
Par votre fils qui est violoniste.
Qui est un grand violoniste, oui.
Et votre fille qui est également...
Une grande saxophoniste.
Saxophoniste.
Oui. Oui, oui. Le génie saute toujours une génération. Je n'en dirai pas plus.
Très bien. Merci beaucoup.
Je vous en prie. Thank you.
En habit vert, rencontre avec un académicien. Les podcasts de l'Institut de France.